Et dans ce magazine aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous nous intéressons aux finances. Puis-je obtenir un complément de revenus pour préparer ma retraite? Comment est-ce que je peux récupérer l'argent de mes impôts pour m'enrichir? Ou encore, quels sont les placements qui offrent les meilleurs rendements? Ce sont peut-être des questions que vous vous posez. Mélanie Carrasco a 30 ans, elle est consultante patrimoniale formatrice. Elle donne des conseils pour les personnes qui souhaitent mieux gérer leurs finances. Elle organise également régulièrement des conférences pour informer de l'actualité financière. Mélanie Carrasco, bonjour.
Oui, bonjour Jean-Pierre.
Pas d'erreur dans mon introduction?
Non, c'est exactement ça.
Alors tout d'abord, qu'est-ce que le métier de consultante patrimoniale?
Excellente question, parce que contrairement aux idées reçues où on pourrait penser que la gestion de patrimoine c'est pour les grandes fortunes, en fait ça s'adressait vraiment à tout un chacun. Donc c'est du conseil, de l'accompagnement, et donc il existe des solutions dès 50 euros par mois pour optimiser son patrimoine. Donc ça va être mettre en place une stratégie sur mesure en fonction de la situation patrimoniale de la personne et de ses objectifs pour qu'il puisse atteindre justement et réaliser ses projets.
Alors la finance, ça concerne en fait toutes les familles, hein.
Exactement, parce que dans la valeur ajoutée que je peux apporter, il y a aussi la prévoyance, comment est-ce que je protège mes proches, comment j'anticipe la transmission de mon patrimoine, comment je réduis mon impôt, comment je prépare ma retraite, comme vous m'avez indiqué lors de votre introduction.
Alors justement, quels sont les conseils qu'on peut donner pour mieux optimiser ses finances ?
Alors des conseils, il y en a énormément. Si je devais en citer deux, le premier, c'est de diversifier au maximum son patrimoine. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir un petit peu d'immobilier nu, de l'immobilier meublé, des placements financiers, pourquoi pas, je donne quelques exemples.
Diversifier.
Exactement, parce que du coup, ça va permettre de diluer la prise de risque. Si on investit et qu'on met toutes nos billes dans une zone géographique bien particulière, si cette zone géographique venait à être mise en mal par la conjoncture, eh bien du coup, on perd l'entièreté de son patrimoine. Donc c'est important de diluer le risque et donc de diversifier au maximum ses actifs. Conseil, pardon, au-delà de la diversification de patrimoine, il y a une règle d'or, c'est toujours avoir une épargne de précaution, c'est-à-dire un minimum d'épargne disponible à la banque sur nos livrets bancaires, livret A, LDDS par exemple, en cas de coup dur, parce que c'est de l'argent qui va être en sécurité et qui va être disponible à tout moment. Donc ça va être une épargne de précaution, je préconise en général 2 à 3 mois de salaire pour un salarié minimum.
Et c'est mieux d'avoir plusieurs banques aussi ou pas ?
Ça dépend des objectifs, ça dépend des montants. On sait que l'État garantit aux investisseurs jusqu'à 100 000 euros par banque. Donc si on a plus de 100 000 euros dans la banque, c'est intéressant d'aller en chercher une seconde.
Alors, ce ne sera pas pour moi alors. Alors concernant la déclaration des revenus, que peut-on donner comme conseil ?
Comme conseil pour défiscaliser, j'imagine, déjà quelques astuces simples, ça va être de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux par rapport à ma situation, que je sois au frais réel ou que je prenne l'abattement forfaitaire de 10% par rapport aux revenus des activités de salariés. Donc les frais réels, ça va être les indemnités kilométriques, est-ce que je dois oui ou non laver mes vêtements issus de mon activité professionnelle, est-ce que mon employeur me donne des tickets restaurant ou un panier repas, et donc tout ça, ça se calcule, et donc si l'entièreté de ces frais réels dépasse 10% des revenus qu'on va encaisser, bah, du coup il est plus intéressant d'aller sur cette option-ci. Après, des solutions pour défiscaliser, il y en a d'autres.
Alors donc concernant les impôts, il y a des calculs à faire et il faut calculer les deux formules, voir celle qui est la mieux.
Qui est la plus avantageuse par rapport à sa situation, effectivement. Après, il y a d'autres possibilités pour réduire son impôt.
Par exemple, je pense aux propriétaires. Oui. Voilà, il y a les propriétaires de locations meublées, non meublées. Est-ce qu'on déclare aussi un petit peu comme les revenus et les frais réels ou pas ? Comment ça se passe ?
Alors effectivement, on a la possibilité de louer un logement en nu ou de louer un logement en meublé. Si on choisit donc en nu ou en meublé, on a la possibilité ensuite de déclarer les revenus encaissés, soit au micro, soit au réel. Donc au réel, on va pouvoir déduire toutes les charges, les travaux, les meubles, les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur, etc. Ou alors on choisit l'abattement forfaitaire offert par l'État. Donc en location nue, ça va être un abattement de 30%. Donc on va enlever 30% des revenus fonciers encaissés et donc on sera imposé sur les 70% restants. Et en location meublée, l'abattement, il est de 50%. Donc pareil, c'est des calculs. Est-ce que les frais réels seront plus avantageux ? Ou alors je choisis tout simplement l'abattement forfaitaire. Ça, c'est pour la location.
Autre sujet, comment est-ce qu'on peut anticiper la transmission de son patrimoine ?
Alors c'est une question intéressante parce qu'on va être tous concernés un jour par ce sujet. Déjà, il y a des abattements de droits communs qui sont offerts par l'État. Par exemple, Jean-Pierre, peut-être que vous savez qu'on peut donner jusqu'à 100 000 euros tous les 15 ans par parent et par enfant sans qu'il paye aucun droit de donation, donc de son vivant. Au-delà de cet abattement de 100 000 euros, il y a un abattement qui vient s'y ajouter, qu'on appelait à l'époque « don Sarkozy », donc qui permet de donner jusqu'à 31 865 euros en plus tous les 15 ans.
On peut cumuler les deux ?
Oui, tout à fait. Mais dans le don Sarkozy, il y a des conditions supplémentaires. Il faut que celui qui reçoit ait plus de 18 ans et celui qui donne ait moins de 80 ans. Il faut que ce soit des liquidités. Et en plus, si on a encore du cash à donner, on peut passer par d'autres biais. Par exemple, l'assurance vie qui permet de donner jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire pour tous les versements effectués sur l'assurance vie avant ses 70 ans.
Il peut y avoir plusieurs cas de figure aussi, donc ça c'est de la part des parents vers les enfants, ça peut être aussi de la part des grands-parents vers les petits-enfants ou du tonton vers les neveux, les nièces.
Oui, tout à fait. Après, juste le montant d'abattement va différer en fonction du lien de filiation. Donc par exemple, 100 000 euros tous les 15 ans par parent et par enfant, si c'est un grand-parent, il sera réduit à 31 000 euros. Donc effectivement, le montant qu'on va pouvoir donner dépend de ce lien de filiation.
Comment est-ce que vous connaissez tout ça ? Vous suivez l'actualité financière ? Il y a des formations, vous êtes souvent sur Internet, c'est ça ? Il faut regarder les lois, il faut connaître un petit peu tout ça, ça change parfois.
Et oui, la réglementation évolue, donc il faut toujours être en veille réglementaire, veille juridique, pour se tenir informé des actualités, pouvoir conseiller au mieux les familles du coup qui veulent bénéficier de ces conseils.
Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour les personnes qui vendent des maisons ou qui achètent ? Est-ce qu'il y a la fameuse plus-value immobilière ?
Alors effectivement, toutes les personnes qui vont revendre un bien immobilier, qui ont fait une plus-value, vont être imposées par l'État. L'impôt sur la plus-value immobilière, il est de 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux sur le montant de la marge encaissée. Donc c'est quand même assez conséquent. Heureusement, pour les particuliers, il y a un abattement en fonction de la durée de détention du bien, ce qui signifie que plus longtemps on garde son bien immobilier, et plus ces 19 plus 17,2% d'impôts seront réduits pour arriver à une imposition qui sera nulle au bout de 30 ans de détention d'un bien immobilier. Donc là aussi, ça se calcule. Est-ce que c'est pas plus intéressant de garder un peu plus longtemps son bien pour avoir moins d'impôts à la fin ?
Est-ce qu'on peut protéger ses proches en cas d'accident ?
Tout à fait. Et Jean-Pierre, le meilleur conseil que je peux donner aux auditeurs qui nous écoutent, c'est d'investir dans l'immobilier, puisque quand on investit en immobilier, souvent on contracte un crédit. Et dans ce crédit, on va avoir une assurance emprunteur, une assurance décès invalidité qui protège nos proches. S'il nous arrive quoi que ce soit, un accident, une invalidité, un décès, eh bien, ça sera cette assurance qui remboursera le capital restant dû auprès de la banque. Et donc, nos proches, notre famille va pouvoir hériter d'un bien qui sera remboursé. Et donc, c'est pour moi la meilleure prévoyance qui puisse exister.
Est-ce que vous avez également quelques conseils à nous donner concernant les assurances vie, Mélanie ?
Les assurances vie, l'assurance vie, c'est tout simplement une enveloppe. Ce qui va compter, c'est ce qu'on va y mettre à l'intérieur. Donc toutes les assurances vie ne se valent pas, celles à la banque, celles qu'on peut trouver sur Internet, celles qui a été conçues par un gestionnaire de patrimoine, puisqu'à l'intérieur de cette enveloppe, on va y mettre des actions, des obligations, de l'immobilier, du fonds en euros. Encore une clé importante lorsqu'on décide de souscrire une assurance vie, c'est de diversifier les actifs qu'il y a à l'intérieur de cette assurance vie pour pouvoir diluer au maximum la prise de risque et qu'elle soit cohérente avec notre profil investisseur, prudent, équilibré, dynamique, et notre horizon de placement.
Pour optimiser son patrimoine d'une manière générale, est-ce que vous avez d'autres astuces, Mélanie ?
Oui, je peux citer un élément de réponse. C'est important de diversifier son patrimoine, on l'a vu, et qu'il opère un meilleur équilibre entre trois critères. Une partie de mon patrimoine doit être rentable. Une partie de mon patrimoine doit être en sécurité. Et une partie de mon patrimoine doit être disponible. C'est important d'opérer un critère entre ces trois éléments parce qu'il n'existe pas de solution miracle, il n'existe pas de solution qui soit à la fois rentable en sécurité et où l'argent est disponible à tout moment. Donc diversifier et réaliser le meilleur pourcentage, le meilleur camembert en fonction de son profil investisseur. Est-ce que je suis prudent, équilibré, dynamique ? et de son appréhension au risque, tout simplement. Voilà, une autre astuce qui pourrait être intéressante, ça serait aussi de déléguer son assurance emprunteur par rapport à notre crédit. C'est-à-dire que dès lors qu'on a souscrit notre crédit, on peut changer à tout moment, depuis plusieurs mois maintenant, son assurance emprunteur, aller chez un autre assureur.
Et ça fait baisser le taux.
Ça fait gagner quelques euros par rapport à cette assurance emprunteur. Donc 10-15 euros par mois sur 20, sur 25 ans. À la fin, ça va être un coût qui est non négociable et c'est très facile à mettre en place et pour pouvoir gagner rapidement sur son crédit.
Mélanie, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, vous organisez également des conférences pour informer donc sur l'actualité financière. Vous en avez donné récemment. Donc comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroulent ces conférences?
Oui. Alors, j'organise des conférences pour informer de l'actualité, comme vous l'avez souligné, Jean-Pierre. Donc, sur divers thèmes, les dernières conférences étaient « Comment investir astucieusement en immobilier en 2024 ?» Parce que beaucoup se posent des questions. Est-ce que c'est le bon moment pour investir? Est-ce qu'il faut mieux que j'attende? Attendre peut-être que les prix de l'immobilier baissent? Attendre que les taux d'emprunt immobilier baissent?
C'est une bonne astuce, ça, le fait d'attendre parfois plusieurs années en espérant que ça va baisser. On attend. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on perd du temps, non?
Alors pour moi, Jean-Pierre, le meilleur moment pour investir en immobilier, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ceux qui attendent que les prix baissent sont toujours en train d'attendre le train au pied de la gare. Donc le temps, c'est un allié en termes d'investissement. Donc il vaut mieux investir aujourd'hui. Et puis de toute façon, un bien immobilier, ça sera sur un cycle immobilier d'une durée de 10-15 ans. Donc sur la durée, on sera gagnant. Et si malheureusement... il y a une période de crise immobilière, comme on a pu le connaître, par exemple la crise des subprimes en 2008, ben juste, ça ne sera pas le moment de revendre, et donc il faudra attendre quelques années que la crise passe, et donc que les prix de l'immobilier augmentent. Ce que je peux juste vous dire, c'est que depuis 1900, la tendance, elle est fortement haussière en immobilier, on investit et on n'attend pas pour investir.
Voilà de bons conseils. Alors, je reviens sur ces conférences que vous proposez, donc il y avait ce thème dont vous avez parlé, il y avait d'autres thèmes aussi?
Oui, il y a d'autres thèmes. Par exemple, comment devenir le maître de ses finances. Donc, c'est des conseils beaucoup plus généraux sur la gestion de son patrimoine en immobilier, en placement financier également. Comment préparer sa retraite, comment anticiper la transmission de son patrimoine. On est tous concernés par ces sujets et donc ça va toucher un plus grand nombre. Donc, c'est une heure de conférence suivie ensuite d'un verre de l'amitié qui est offert. Mes prochaines conférences, le jeudi 6 juin au Prose à la Grande Motte à partir de 19h, donc c'est en entrée libre. Et j'organiserai également une conférence financière au domaine de la Resclose à Caux en septembre 2024.
Nous arrivons au terme de ce magazine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Non, c'est bon pour moi. Je crois avoir tout évoqué, Jean-Pierre. En tout cas, c'est un sujet vaste et on pourrait en parler encore pendant de longues minutes. On est tous concernés par ces sujets.
Comment est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées ou bien des réseaux sociaux pour vous trouver?
Oui, alors je suis plutôt active sur LinkedIn, donc le réseau social professionnel, donc tout simplement mon nom, Mélanie Carrasco, avec deux R, et sinon directement par téléphone au 06 08 35 52 99.
Merci Mélanie Carrasco pour tous ces conseils, je vous souhaite une très belle journée.
Merci Jean-Pierre, bonne journée.